Bonjour, merci de nous rejoindre, lecteurs et auditeurs du journal de Pôle Adapt. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission, le journal de Pôle Adapt. Servir, sourire, opinion traitée, c'est notre devise. Elles sont nombreuses à choisir leur métier qui parfois le parcours est hardi pour elles. Mais elles ont décidé de travailler dans un domaine assez spécifique malgré la lourdeur administrative et le domaine qui n'est pas facile. Stress, dossiers interminables, souvent face à certaines situations qui sont parfois compliquées. Mais elles réussissent à trouver une solution sur mesure et accompagner tout un chacun vers sa réussite et selon ses besoins. Rencontrons l'une de ces femmes qui a osé et cru aux déficients visuels pour travailler avec eux. Passionnement et dévouement, elle travaille avec le cœur et le courage. Difficile pour un non-voyant de le croire, mais nous ressentons son sourire sur ses lèvres toujours et prête à servir. Aujourd'hui, nous recevons dans le deuxième numéro du journal Pôle Adapt, Madame Moreau, assistante sociale. Bonjour Madame Moreau.
Bonjour.
Autour de la table, nous avons Ranjit Ranjan à ma gauche. Bonjour Ranjit.
Bonjour Bouba, bonjour Mor et bonjour Madame Moreau. Deuxième édition de notre journal, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, c'est le deuxième numéro. Merci à toi. Et Mor Talaning, bonjour Mor.
Bonjour Bouba, bonjour Madame Moreau, bonjour Ranjit, bonjour Serge Auditeur. Je suis ravi de partager l'antenne avec vous.
Merci encore une fois Madame Moreau, malgré votre emploi du temps qui est vraiment très chargé, de nous recevoir dans vos bureaux.
Bah, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour cette interview.
Merci. Bon, première question Madame Moreau. Pouvez-vous présenter pour nos lecteurs et nos auditeurs?
Donc, je m'appelle Fabienne Moreau, je suis assistante sociale au CFRP Valentin Huy depuis un bon moment maintenant, puisque je suis à ce poste depuis 2010. Donc là, cette année, ça aurait fait 8 ans. Et voilà, donc heureuse d'avoir travaillé toutes ces années au CFRP, d'avoir choisi le métier d'assistante sociale pour apporter mon aide aux personnes qui en ont besoin.
Et à quoi consiste votre métier ?
Là, au CFRP, c'est accompagner les stagiaires pendant leur formation. C'est-à-dire que pendant leur cursus, si les stagiaires ont besoin d'avoir des informations sur leurs droits, sur les dispositifs existants, s'ils rencontrent des difficultés, que ce soit des difficultés personnelles ou des difficultés au niveau du logement, c'est essayer de répondre à leurs questions, à leurs besoins et à les accompagner de la meilleure manière possible, les aider dans les démarches administratives qui sont très lourdes. Et c'est vrai qu'avec la déficience visuelle, c'est pas toujours évident de remplir tous les documents qui sont demandés. Donc il y a beaucoup de demandes d'aide à ce niveau-là. Et c'est essayer d'être une aide pendant leur formation pour leur permettre de suivre leur cursus dans les meilleures conditions possibles.
Et depuis combien de temps vous l'exercez, ce métier ?
Alors, je suis au CFRP depuis mai 2010, donc là, ça aurait fait bientôt 8 ans. Avant, j'ai fait un court passage de 6 mois à l'IDES. Donc l'IDES, c'est l'Institut d'éducation sensorielle, qui est situé aussi à Paris, vers Denfert-Rochereau, et qui accueille des jeunes déficients visuels. En fait, c'est une école spécialisée pour les jeunes déficients visuels, un petit peu comme l'Institut national des jeunes aveugles. Et j'ai travaillé 6 mois là-bas, avant d'arriver au CFRP et c'était un poste qui était à mi-temps contrairement à ici où je suis là tous les jours. Donc moi j'ai toujours été assistante sociale, pour l'instant je n'ai pas exercé d'autres professions. Donc j'ai fait après le bac les études pour pouvoir être assistante sociale, donc je suis passée par un IUT. Donc j'ai fait d'abord un DUT carrière sociale.
C'est quoi DUT?
Alors, un IUT, c'est Institut Universitaire Technologique. Donc, c'est une branche de l'université, mais déjà qui propose des formations déjà un petit peu plus concrètes, c'est-à-dire vers un diplôme qui nous permet de travailler assez rapidement. Et donc, un DUT, ça veut dire diplôme universitaire technologique, carrière sociale, donc ça dure 2 ans. Et ensuite, j'ai fait l'année de spécialisation pour pouvoir avoir le diplôme d'État d'assistante sociale. Donc, j'étais à l'IUT de Paris 5, sur Paris. Après avoir obtenu le diplôme d'assistante sociale, j'ai voulu continuer un petit peu encore dans les études et aller jusqu'à une licence professionnelle. Parce que c'est vrai que assistante sociale, c'est 3 années d'études, mais on est reconnu que bac plus 2. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, allons encore un peu plus loin pour avoir le niveau licence, ça pourra toujours servir un jour. Donc j'ai fait une licence professionnelle en animation sociale et socioculturelle à l'IUT, toujours, mais de Bobigny cette fois. Voilà, dans le 93. Donc ça a été une année d'études en plus, bien que j'avais déjà mon diplôme d'assistante sociale. Et en fait, pendant mes études d'assistante sociale, on fait beaucoup de stages, hein, un peu comme vous, hein, des périodes de stages à l'extérieur, en entreprise, dans les structures, etc. Et pendant mes études d'assistante sociale, bah, voilà, j'ai vu un petit peu de tout, dans le sens où j'ai fait un stage dans les services de polyvalence de secteur du département. Donc là, on reçoit des familles, des personnes, un peu pour toutes les problématiques, aussi avec la protection maternelle et infantile, la protection de l'enfance, tout ça. Donc j'ai vu un peu tous ces services. J'ai fait aussi un stage à Médecins du Monde et j'ai fait un stage à l'Éducation nationale dans un collège et dans un lycée. Donc voilà, ça m'a permis de voir déjà pas mal de cas et de problématiques différentes. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas pendant mes études d'assistante sociale que j'ai eu ma première expérience avec les personnes déficientes visuelles et le champ plus du handicap. J'avais pas du tout fait de stage dans ce domaine-là pendant mes études d'assistante sociale. C'est quand j'étais en licence que j'ai eu cette première expérience. Donc là, j'étais en animation sociale et socioculturelle. J'aurais dû mettre le téléphone, le couper, mais ça, je peux pas le faire, malheureusement. Donc, je disais, voilà, en animation sociale et socioculturelle, et dans le cadre de cette licence, on devait réaliser des projets d'animation, de culture, etc. Et c'était des projets qu'on faisait en groupe, en collectif, avec plusieurs autres étudiants. Et en fait, on avait un projet tutoré à faire, et axé sur la culture, et nous, on avait eu l'idée de faire un projet pour permettre à des jeunes déficients visuels de pouvoir bénéficier de cours de danse hip-hop, puisque dans notre groupe, on avait un jeune qui prenait des cours, enfin qui dansait le hip-hop et qui donnait des cours, et aussi leur permettre de leur proposer des cours de sculpture, puisque dans notre groupe on avait une jeune fille qui donnait des cours de sculpture. Donc tant qu'à faire, on utilisait un peu leur savoir-faire. Et le public déficient visuel, bah voilà, je sais pas, dans mon groupe on s'est dit tiens, si on essayait de faire ça dans une école spécialisée pour les jeunes déficients visuels. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu trop d'expérience, voilà, moi j'avais jamais trop été en contact avec ce public. Donc du coup, on a décidé de faire ce projet à l'Institut National des Jeunes Aveugles.
À l'INJA.
À l'INJA. Et donc, c'est là que j'ai eu ma toute première expérience et qu'on a fait ce projet avec les jeunes de l'INJA. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un public. Voilà, je me suis sentie bien. J'ai vraiment aimé faire ce projet avec les jeunes de l'INJA. Et du coup, quand j'ai fini ma licence, quand j'ai cherché du travail... je voulais être assistante sociale et je voulais absolument essayer de trouver quelque chose dans le champ du handicap et travailler si possible avec des personnes déficientes visuelles. Donc j'ai concentré mes recherches sur toutes les structures pour les personnes déficientes visuelles et la première structure qui a répondu, où ça a fonctionné, ça a été l'IDES. Voilà, donc cette fameuse école pour les enfants déficients visuels qui est à Denfert-Rochereau. Je n'y suis restée que 6 mois, mais en fait, je m'y plaisais beaucoup. Hein, c'était un poste qui m'intéressait beaucoup, mais c'était un poste qui était à mi-temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi penser à soi. Donc moi, j'avais aussi besoin d'avoir une activité à temps plein, même si j'avais essayé de trouver un deuxième mi-temps pour pouvoir essayer d'avoir 2 mi-temps en même temps. Mais ça, c'était pas facile. Et donc après, quand j'ai appris qu'ici, on cherchait une assistante sociale à temps plein, c'était toujours un établissement avec des personnes déficientes visuelles, donc ça me convenait, des adultes, donc c'est vrai que ça change aussi des enfants. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée ici et que j'y suis depuis presque 8 ans.
Je passe la parole à Bouba, bien entendu.
Avez-vous, dans ce cadre-là, suivi une formation spécifique dans la déficience visuelle ?
Bah, du coup, non, pas forcément. Comme je vous l'ai dit, mes stages en tant qu'assistante sociale, bah, je les ai faits dans des structures et des services totalement différents. Pendant ma licence, bah, voilà, c'est juste qu'on a eu envie, nous, de mon groupe de travail, de travailler à l'INJA et avec les jeunes de l'INJA. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été un petit peu, enfin, que j'ai eu ma première expérience avec les personnes déficientes visuelles. Mmh. Et en fait, j'ai pas eu forcément de formation. J'ai envie de dire que c'est, bah, voilà, en étant ici au CFRP, bah, avec le temps, les années, qu'on apprend, qu'on acquiert de l'expérience. Et puis voilà, aussi le contact avec les collègues. J'avais eu quand même quelques informations de la part de l'instructrice en locomotion, de l'orthoptiste. Mais voilà, après, c'est à force d'exercer ici bah, qu'on se forme et qu'on apprend de plus en plus de choses.
Que ce soit avant ou maintenant, est-ce que des formations pour spécifiques existent ou n'existent pas ?
Des formations spécifiques par rapport à la déficience visuelle ?
Ou même par rapport à l'handicap ?
Je pense que oui, il doit y avoir des formations sur ce sujet-là, je pense, oui, il y a peut-être des sensibilisations, des choses comme ça. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, en fait, assistante sociale, c'est un travail qui peut être très différent suivant l'endroit où on l'exerce. Par exemple, une assistante sociale à l'éducation nationale dans un collège-lycée, elle ne va pas forcément faire le même travail que moi ici. Une assistante sociale à l'hôpital, ça ne va pas du tout être les mêmes démarches. Elle va plus faire des demandes par rapport à la santé, faire des demandes de CMU, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'après, on se spécialise quelque part. Et quand je suis arrivée, bah, voilà, j'étais pas forcément spécialisée dans la déficience visuelle, mais toutes ces années, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment bah, sur les dispositifs, c'est-à-dire vraiment bien connaître les MDPH, bien connaître toutes les prestations proposées. Quand on a besoin de faire des demandes de financement de matériel, bah, maintenant, voilà, je sais qu'on peut faire une demande de PCHT technique, toutes les prestations, l'allocation adulte handicapé, les aides au niveau des transports et des forfaits métis, tout ça. Moi, j'étais pas forcément au courant de tout ça de manière si détaillée. C'est en étant en activité bah, qu'on est amené à s'informer tous les jours et voilà, et à apprendre de plus en plus de choses et à se spécialiser sur un domaine bien précis.
Plusieurs centres de formation qui accompagnent les personnes déficientes visuelles. Vous avez choisi l'AVH, le centre de formation et de rééducation professionnelle de l'AVH. Comment vous êtes retrouvé au fait ici ?
Bah, comme je vous l'ai dit, donc, quand j'ai commencé à chercher du travail, je cherchais vraiment en priorité des structures pour les personnes déficientes visuelles, puisque je voulais travailler avec ce public. Donc j'ai postulé d'abord à l'IDES, comme vous le savez. Et en fait, c'est marrant parce que sur mon CV, c'est grâce à ce fameux projet que j'ai fait avec l'INJA pendant mon année de licence que le directeur il s'est dit « Ah, elle a déjà eu un contact avec les jeunes de l'INJA, donc elle a déjà eu une expérience avec le public déficient visuel. » Donc bah, on va l'apprendre parce que bah, du coup je sortais de l'école, hein, j'avais jamais vraiment travaillé, donc j'étais toute novice. C'est pour ça que je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance et c'est pour ça qu'il m'a pris le directeur de l'IDES à l'époque. Donc je me suis retrouvée à l'IDES et en fait les assistantes sociales, on a un réseau, c'est-à-dire il y a beaucoup de structures qui accompagnent jeunes ou les adultes déficients visuels. Par exemple, les enfants qui sont à l'école en intégration, ils sont suivis par des services d'intégration qu'on appelle le SIAM ou le S3AIS. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a un réseau qui existe et on essaye de se réunir bah, pour se tenir un petit peu au courant des nouveautés, se donner des nouvelles par rapport voilà, s'il y a eu un nouveau dispositif, une nouvelle loi, des choses comme ça. Et puis aussi, voilà, pour qu'on ait un appui, si un jour on a besoin d'une information, d'un conseil, et bah, on peut solliciter les assistants sociale de ce réseau. Et donc il y a des réunions qui sont organisées tous les 3 mois à peu près. Et quand j'étais à l'IDES, je suis allée dans l'une de ces réunions et là j'ai rencontré l'assistante sociale qui était à ma place avant, ici, sympathisée. Et elle m'a dit bon bah moi j'ai le projet de m'en aller puisqu'elle allait partir vivre en province. Donc elle m'a dit bon, le poste au CFRP va bientôt se libérer et je pense qu'elle m'a bien appréciée parce qu'elle m'a dit voilà, je pense que ce serait bien pour toi si tu postulais et si tu venais au CFRP, je pense que c'est un poste qui pourrait te correspondre, même si j'étais très bien à l'IDES, mais par rapport à l'IDES, c'est vrai que c'était un poste à temps plein, donc ça fait la différence. Et donc bah, l'assistante sociale qui était était là avant, quand elle a décidé de partir, m'a contactée pour me dire qu'elle partait et pour que je puisse présenter ma candidature. Et bah du coup, forcément, comme je venais de l'IDES, comme recommandée par l'assistante sociale qui était là, forcément, je pense que ça a aidé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici.
Vous auriez pu être aussi dans un autre centre ?
Dans un autre centre, c'est-à-dire ?
Dans un autre centre qui accompagne les personnes déficientes visuelles.
Oui, j'aurais pu, s'il y avait eu d'autres centres qui cherchaient, si j'avais postulé, mais là, ça s'est passé comme ça, en fait.
D'accord.
Ça s'est passé assez naturellement.
L'expérience avec les personnes handicapées est importante pour retrouver dans ce domaine, par exemple dans le centre ici ?
Oui, je pense que voilà, si on a déjà travaillé dans le champ du handicap et plus précisément de la déficience visuelle, si on se retrouve ici, c'est sûr que ça aide. Après, je pense que quelqu'un qui vient d'un domaine totalement différent, bon bah, il y aura forcément une période un peu de découverte, de démarrage au départ. Je pense que la personne va acquérir les réflexes, va pouvoir s'informer plus précisément sur le sujet et qu'elle pourra aussi exercer tout aussi bien sa profession. Moi, quand je suis arrivée à l'IDES, je sortais de l'école, donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, ça c'est vrai, mais là je me rends compte après 8 années d'expérience professionnelle que c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend vraiment en sortant de l'école. Bon, on apprend des choses, mais c'est vraiment en travaillant que là je me rends compte que c'est là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on se forge, ça n'a rien à voir avec l'école, c'est vraiment c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi quand je suis arrivée. Bon, je connaissais quand même quelques petites choses, mais c'est vraiment le fait d'être sur le terrain, de se confronter à certaines problématiques qui nous font apprendre des choses, qu'on est obligé de s'informer et que de creuser la question, et là on acquiert du savoir et de l'expérience.
Qu'est-ce qui vous a marqué durant votre parcours au CFRP ?
Je suis vraiment contente là de mes 8 années ici. Ce qui m'a plu là, alors je parle au passé parce que vous savez que je vais bientôt quitter le CFRP très prochainement. Parce que voilà, même si je suis très contente de mon expérience, et ben c'est vrai que pour moi en tout cas, 8 ans, ça me paraît être déjà pas mal. Et donc là, je sens et j'ai l'envie de changer. Hein. Je pense que c'est bien aussi de changer un peu dans la vie. En tout cas, ce que je retiens du CFRP, ce qui m'a plu, de travailler dans le champ du handicap et avec les stagiaires déficients visuels et encore plus au CFRP, c'est que on pouvait vraiment voir la progression du stagiaire. C'est-à-dire que quand vous entrez en formation, souvent vous êtes là pour 3 ans de formation minimum, voire plus pour certains cursus. Ça nous laisse du temps mettre en place beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai vu des situations où voilà, quand la personne est arrivée, elle était dans telle situation et vraiment elle a fin de son cursus, on avait fait beaucoup de choses, on avait mis beaucoup de choses en place, on avait pu ouvrir ses droits, lui faire sa demande de matériel, dans certains cas même obtenir un logement, etc. Il y avait beaucoup de travail, mais quand ça aboutit favorablement, c'est ça qui est gratifiant et c'est ce qui motive pour la suite. Quand ça m'est arrivé, voilà, de voir l'évolution, quand je repensais au stagiaire quand il était arrivé et quand je le vois là où il est arrivé à la fin avec un diplôme en poche, prêt à affronter le monde du travail, je trouvais ça vraiment intéressant de voir cette belle évolution.
J'ai envie de vous demander alors quelles difficultés rencontrez-vous en tant qu'assistant social ?
Alors là, je vous parle des bons côtés, il y en a beaucoup. Mais sinon, c'est pas un métier facile, je vous le confesse. C'est vrai que assistante sociale, souvent, alors des fois c'est plus accompagner les personnes dans la mise en place de leurs droits, les dossiers MDPH, plus la partie administrative. Donc ça c'est un peu, on va dire, à la fin, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Même vous avez pris les réflexes des déclarations trimestrielles. Au début, il faut découvrir, mais après on se rend compte que c'est toujours un peu pareil et qu'il faut savoir adopter des réflexes. Mais par contre, des fois, il y a des situations plus compliquées où le stagiaire, des fois, peut être dans une situation vraiment pas facile. Des fois, il peut y avoir des urgences. Et même si on veut aider la personne, qu'on essaye de mettre en place tout ce qu'on peut, qu'on fait des dossiers, des fois, ça marche pas toujours. Des fois, on peut avoir un refus. Et des fois, on a l'impression que rien n'avance et que ça n'aboutit pas. Et on a envie de baisser les bras. Et à côté de ça, on a envie d'aider la personne. Et ça, c'est pas toujours facile. Des fois, on a peut-être envie de se décourager, mais non, il faut continuer, il faut persévérer. Et alors, quand on a une réponse favorable, là, pour le coup, ça nous rebooste pour un bon moment. Mais oui, c'est pas toujours facile. Et des fois, on n'a pas forcément aussi toutes les solutions. voilà, ça arrive que parfois on puisse être impuissant hein, face à certaines situations. Voilà, il y a des choses, par exemple, si je prends l'exemple du logement, c'est vrai que les demandes de logement social en région parisienne, c'est très 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 long, c'est fastidieux. Donc c'est vrai que bah, des fois, on se décourage, on se dit, voilà, le stagiaire bah, aimerait avoir son logement, mais nous, on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas faire avancer les choses plus vite, malheureusement. Mais malgré tout, ma philosophie, jusqu'à présent, c'était de ne pas baisser les bras, et on faisait quand même les dossiers, hein, même si des fois, il y en a qui disent que ça sert à rien. Bah, faut le faire quand même, parce que si on le fait pas, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse. Faire le dossier, voir tout ce qui existe, tous les dispositifs qu'on a à notre disposition, et quand même faire les dossiers, faire. Et voilà, continuer, relancer, si on n'a plus de nouvelles, etc. Et des fois, ça finit par payer. Donc c'est vrai que ça peut être long, ça peut être décourageant, mais il faut persévérer et ne pas perdre espoir, puisque des fois, ça aboutit et on est content. Pas toujours évident, hein. Des fois il y a des problèmes où on n'a pas forcément de solution non plus et voilà. Et ce qui est compliqué aussi dans ce métier, c'est qu'il faut réussir à garder une distance, c'est-à-dire de pas emmener les problèmes des autres chez soi. Ça, c'est pas toujours évident. Au début, j'avais du mal. Après, avec l'expérience, j'ai réussi. Mais des fois, je peux pas m'en empêcher. Voilà, le soir, même si je suis chez moi, je peux aussi faire. Bah, je vais repenser à une situation qui va me stresser. Coup de me dire ah mince, on n'a pas réussi à faire ci, à faire ça. Comment on va faire? Et des fois, il faut réussir à lâcher prise. Il faut se protéger aussi, de se dire voilà, je pense que je fais tout ce que je peux, je fais de mon mieux. Mais voilà, après il y a la réalité des choses et après il faut savoir aussi mettre un peu une distance. Et puis c'est bien aussi de rester objectif pour accompagner au mieux les personnes.
Vous allez partir bientôt du CFRP. Quels souvenirs gardez-vous du centre ?
Bah, des bons souvenirs. Hein. Ça fait donc, voilà, je vais me redire, 8 ans que j'étais là, donc je commençais un peu à faire partie des murs. Quand je repense, bah, j'ai vécu des belles années ici, hein, aussi bien avec les stagiaires, des belles rencontres. Hein. Il y a des stagiaires qui sont plus là, hein, qui sont partis, mais qui continuent à donner des nouvelles. Et des fois, je suis vraiment contente de voir bah, que voilà, ils ont trouvé un travail, qu'ils sont épanouis, etc. Donc je me dis que leur passage au CFRP a été positif. Donc ça, c'est bien. Aussi, bah, les collègues, hein, on est une bonne équipe. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec tous les collègues qui ont pu être ici au CFRP. Donc voilà, globalement, contente hein, de mon expérience. Hein. Je pense que j'ai grandi aussi. Hein, j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré de belles personnes. Je pense que j'ai aidé. J'ai fait de mon mieux pour aider comme je pouvais les stagiaires. C'est le bilan que je garde du centre de mon passage ici au CFRP.
Un très beau parcours. Aujourd'hui, disons, il y a plusieurs personnes qui ont envie d'embrasser ce métier. Quel conseil avez-vous à leur donner de par votre expérience ?
C'est un très beau métier, hein, parce que moi, ce qui me plaisait dans ce métier, c'était le fait d'avoir cette relation humaine, voilà, de rencontrer des personnes, etc. Et être dans cette dynamique d'essayer d'aider, d'accompagner, de proposer des solutions. Il faut savoir que l'assistante sociale ne fait pas tout toute seule. En fait, on avance ensemble avec le stagiaire, hein, parce que si le stagiaire n'est pas moteur, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, c'est vraiment un travail en binôme, j'ai envie de dire. C'est vraiment un accompagnement, voilà, les deux personnes avancent ensemble, donc ça je trouve ça intéressant. Après les conseils que je donnerais, bah voilà, c'est surtout ça, être vigilant à garder quand même une certaine distance, hein, comme je disais tout à l'heure, de rester professionnel, de rester objectif et de se dire que voilà, on fait de notre mieux pour accompagner les personnes. Si des fois voilà, on a des réponses négatives, bon bah c'est peut-être pas le prendre pour soi, de se dire c'est de ma faute, j'ai mal fait ou j'en sais quelque chose comme ça, de se dire voilà que ça fait part, essayer de relativiser voilà et de lâcher prise, mais essayer quand même de faire les choses au mieux, d'avancer au mieux avec le stagiaire.
Souvent dans la vie de tous les jours, ils rencontrent des difficultés, des contraintes, ayant connu parfois la marginalisation, la discrimination, que ce soit au sein de la famille ou au sein de la société, certains parmi eux ont pris leur courage à bras le corps pour lutter contre les maux afin de participer au développement socio-économique de la société. Nous avons reçu aujourd'hui Madame Moreau, intervenante sociale du Centre de formation et de rééducation professionnelle de l'association Valentin Ahu. Merci Madame Moreau de nous avoir accordé cette interview.
Mais de rien, merci à vous de m'avoir écouté.
Merci Ranjit.
Merci à tout le monde.
Merci Moreau.
Merci Bouba, merci Ranjit et merci Madame Moreau. Merci de nous avoir donné l'occasion de vous poser certaines questions et puis j'espère que la suite sera favorable pour vous. On vous le souhaite de tout cœur.
Ben, je vous remercie et je l'espère aussi. Et puis ben, pour vous également, que des bonnes choses et tout le succès que vous méritez.
Merci. 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 Bonne continuation à vous.
À vous aussi.
Vous le vivez au même moment que nous. Nous sommes une partie de la section. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons la présence de
Marie-Noël,
de certaines personnes dans le bureau de
Marie. Alors là, quelle belle surprise que vous me prenez, mais là, c'est trop là. Là, c'est. Je ne sais pas quoi dire.
Ça, j'entends la voix de Thierry
et de Marie-Noël, je pense.
Marie-Noël
et Rose.
Ben là,
et Rose.
C'est pas possible, vous me gâtez trop là. Je sais pas quoi dire là. Je suis enregistrée toujours.
Bien évidemment, vous êtes en direct.
Bien sûr.
C'est en direct.
Bah, franchement, là, vous me gâtez trop. Ça me touche beaucoup, là, ça me gêne aussi. Bah écoutez.
Ne vous gênez pas, surtout.
Bah, c'est
tout à fait
parce
normal.
Mais je sais pas, la section est là. Il y a Thierry.
Tu sais pas quoi dire.
Je sais pas, vous nous avez trouvé en pleine interview.
C'était l'exprimer notre gratitude et de souhaiter une bonne continuation. Donc on exprimait tout ça dans une petite carte et avec deux petits cadeaux.
Voilà. Merci à vous. Merci Marie-Noël.
Marie-Noël, le micro, il est là.
C'est
juste pour dire merci à Madame Moreau et de tout ce qu'elle a fait pour nous. Et elle a fait vraiment avec cœur et avec plaisir. Et franchement, on n'est pas prêt de l'oublier. Merci beaucoup.
Rose.
Tu peux quoi dire?
Elle est tellement émue qu'elle a perdu. C'est l'émotion, on le comprend.
C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de se sentir enregistré. Parce qu'on se dit que ça va rester gravé, tout ce qu'on dit. En tout cas, là, je suis vraiment agréablement surprise. Là, je ne m'attendais pas à ça. Là, vous me gâtez vraiment, c'est vraiment gentil. Donc, j'ai un magnifique bonsaï et aussi autre chose là, que je vais prendre le temps là, de regarder avec vous. Je suis très contente de mon expérience ici, de vous avoir connu. Alors en plus, vous êtes une section où finalement on n'a pas pu se connaître beaucoup puisque vous êtes arrivée fin août 2017. Ouais. Contrairement à d'autres stagiaires, par exemple ceux des sections déjà qualifiantes, ils sont là déjà depuis 2-3 ans, donc j'ai pu plus les connaître. Donc là, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu quand même déjà, mais c'est vrai que c'est pas comme si on avait passé toute une année ensemble. Donc ça, je le regrette, j'avoue, parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse continuer encore un moment ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que je suis là, et c'est vrai qu'à un moment donné, je sens que je suis arrivée au bout de ma mission ici au CFRP, que j'ai essayé vraiment de mener de la meilleure manière possible. Alors je sais que des fois, je n'étais pas toujours disponible, parce que un petit peu débordée, beaucoup de demandes, etc. C'est vrai que c'est un poste, je suis toute seule au CFRP, donc des fois c'était pas toujours facile, mais le matin j'étais toujours contente de vous retrouver et des fois un petit peu aussi stressée parce que je voulais vous apporter le meilleur de moi-même, essayer de trouver les solutions, de mettre en place toutes les choses qu'il fallait pour qu'on puisse avancer au mieux ensemble. Donc j'ai vraiment fait de mon mieux. Je suis vraiment très touchée par votre reconnaissance parce que c'est le meilleur des remerciements, ça veut dire que vous étiez content du travail que j'ai fait pour vous, donc ça me touche beaucoup, je suis très contente.
Et puis après, en dehors du travail, hein, même humainement, voilà, ça me fait quelque chose de partir et de vous laisser, mais il y a un moment, on est obligé hein, de mettre, voilà, de se décider, de se lancer. Donc c'est cette année que c'est arrivé, mais j'ai quand même été très heureuse de pouvoir vous connaître quand même un petit peu là en ce début d'année. Et puis bah, moi non plus, je vous oublierai jamais, hein, ça c'est sûr.
Merci.
Même il y a plein d'autres stagiaires qui sont partis depuis, mais j'ai toujours une petite pensée pour eux. Hein. Et puis bon, de toute façon, voilà, je pense que j'aurai des nouvelles, hein, puisque voilà, j'ai des contacts avec Madame Couvez, donc voilà, je pense que j'aurai quelques nouvelles de votre part. Encore merci pour tout et je vous souhaite une très bonne continuation à tous et à toutes. Merci. J'espère que vous allez réussir, voilà, aller au bout de ce que vous voulez, d'aller au bout de tous vos projets et que votre formation se passe de la meilleure manière possible.
Merci.
Merci.
C'est sur ces mots, nous terminons cette émission en bonté. C'était une très, très, très grande émotion.
Oui.
Merci encore une fois, Madame Moreau, et bonne continuation.
Merci à vous aussi.